Je vous invite à ouvrir vos Bibles sans plus tarder dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 1. Évangile de Marc, chapitre 10 et verset 1. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Et au verset 13, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. On voit avec ce texte que l'une des choses importantes que Jésus a enseignées, c'est d'avoir un cœur d'enfant. Et de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile, la parole de Dieu avec un cœur d'enfant. Vous avez un enfant, tout ce qu'on lui dit, il le croit. Il nous fait confiance. Un enfant, on pourrait dire c'est un peu naïf. Il fait confiance à ses parents et quelquefois il nous surprend. Il va se mettre à sauter du haut d'une chaise, s'attendant à ce que son parent le rattrape. Mais quelquefois le parent n'est pas au courant, alors il a besoin d'un réflexe pour rattraper son enfant. Un enfant, ça fait confiance aux parents. Il sait que ses parents prendront soin de lui, en tout cas, c'est la nature originale qu'il a, un enfant, à moins qu'il soit battu, à moins qu'il soit déçu, mais normalement un enfant, quand il est aimé, il fait confiance aux parents. On lui dit ce qu'on veut, on peut même lui dire des bêtises, il est prêt à les croire. C'est rigolo des fois de voir l'attitude d'un enfant. Et Dieu nous demande, Jésus nous a dit d'avoir cette même attitude face à l'Évangile. Un cœur simple qui croit à ce qui est dit, dans la parole de Dieu. En plus, on a la chance, nous qui avons la Bible, nous qui la lisons, nous qui l'entendons ce soir, de savoir que Dieu ne ment pas, que la parole de Dieu, elle est vraie, et que Dieu ne trahira jamais sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Ce qu'il dit, il veille dessus pour l'accomplir. Et il ne nous déçoit jamais. Quelle bonne nouvelle, quelle nouvelle rassurante pour nous. On va voir un petit peu deux personnes. Une personne qui a cru Jésus. De suite, comme un enfant. On est même étonné de la manière dont ça s'est passé. Puis un autre personnage qui a douté. On va voir qu'est-ce qui l'a empêché de croire. On va voir ces choses ensemble. Dans Luc, donc, chapitre 5 et verset 27. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il nous est raconté un petit peu comment Jésus, a appelé Matthieu à venir avec lui, à le servir. On va voir combien c'est étonnant la manière dont ça s'est passé. Luc, chapitre 5, verset 27. Je vous laisse préparer. Vous m'entendez bien? Vous n'avez pas trop chaud? Ni trop froid? Bon, c'est bien. Alors, Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Amen. On voit que Jésus est là, il marche. Il se retrouve devant le bureau des péages, il voit Lévi, qui s'appelle aussi Matthieu, il voit Matthieu et il lui dit, voilà, suis-moi. Il n'y a pas plus simple. Et j'ai regardé, j'ai vérifié dans tous les évangiles, c'est la même histoire, c'est le même récit, tout le monde s'accorde, il n'y a eu que suis-moi, et Matthieu s'est levé et il a suivi, point. Qu'est-ce que des fois on est compliqué? Vous n'êtes pas compliqué? Non, vous non, moi oui. Moi j'avoue. Des fois, on est compliqué. On discute avec Dieu. On discute avec le Seigneur Jésus. On discute avec la parole de Dieu. Mais lui, il a choisi quelque chose de très simple. Suis-moi, il a suivi. Il se lève, il laisse tout et il le suit. Quel exemple. Quel exemple il nous donne. Quelle leçon. Juste après, il va même faire quelque chose d'incroyable. Il va accueillir Jésus chez lui et faire un grand festin, appeler plein de personnes de mauvaise vie, des pécheurs. Des gens, je ne sais pas, peut-être des voleurs, j'en sais rien. Des gens de mauvaise vie à sa table pour entendre Jésus parler. Et pour être dans la présence de Jésus, lui-même, on remarque qu'il a reçu un grand bonheur, quelqu'un d'exceptionnel dans son cœur, dans sa vie. Il suit quelqu'un d'exceptionnel au point qu'il veut le faire connaître aux autres. Enfin, si tout le monde était comme Lévi, les pasteurs seraient très heureux. Hein, ils reçoivent l'évangile simplement, ils suivent Jésus simplement, et ils parlent de lui à tous leurs amis, tous leurs copains, et puis les gens, ils viennent, ils mangent avec Jésus. Jésus va dire quelque chose, il va dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Quand on lui reproche pourquoi, eh bien, Jésus mange avec des gens de mauvaise vie, il dit, ben parce que moi je suis venu aider les gens, les sortir de leur misère, les pardonner de leurs péchés, les sauver de leur détresse. Et il dit, voilà, c'est pas des justes. Je suis pas venu à appeler des justes, moi. Moi, des justes, ceux qui se croient justes, qui ont besoin de personne, moi, je suis pas venu les appeler. Ils ont besoin de personne, je les laisse, jusqu'au jour où ils réaliseront qu'ils ont besoin de quelqu'un, puisse ne pas être trop tard dans leur vie, le jour où ils seront devant Dieu. Parce qu'il faut pas jouer avec le temps. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on voit que Jésus a un cœur particulier, un cœur qui se tourne vers celui qui est dans la détresse, celui qui est dans une mauvaise vie, celui qui est dans son péché et qui ne dit pas « Non, non, moi, tout va bien », mais qui réalise qu'il a besoin de pardon. Êtes-vous dans ce cas-là ? Ce soir, je l'espère que tous, on réalise qu'on a besoin du Seigneur Jésus dans notre vie. Et la deuxième personne que j'aimerais regarder avec vous encore ce soir, c'est dans Deux Rois. Dans Deux Rois, un homme qui est pareil dans la détresse, qui est même malade. Il a une maladie qui s'appelle la lèpre. C'est le chef de l'armée, c'est Naaman le Syrien. Dans Deux Rois, au chapitre 5 et au verset 1. Naaman, chapitre 5, verset 1. On va voir que si Matthieu, Lévi, a accepté le Seigneur Jésus sans complication, comme un cœur d'enfant, avec un cœur d'enfant, eh bien Naaman, ça va être un peu plus compliqué. Heureusement, il va arriver à être béni de Dieu, à être sauvé, lui aussi. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lèpre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Qui suis-je ? Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Mais maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Amen. Désolé pour cette longue lecture, mais elle nous enseigne beaucoup de choses. Si pour Lévi, Matthieu, c'est très très simple de recevoir la bénédiction de Dieu, le pardon de ses péchés, d'accepter de se repentir, d'accepter de suivre Jésus, de se convertir, eh bien pour Naaman, c'est un peu plus compliqué. Naaman, c'est un chef d'armée. Il a l'habitude sûrement des cérémoniales. Il a l'habitude des grandes sorties en pompe avec tout son attirail, ses chars, ses serviteurs, des présents. On voit la somme d'objets, d'argent, de vêtements qu'il emporte, des choses de valeur. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on achète des vêtements de rechange par centaines, selon nos garde-robes. Mais lui, alors il va sortir avec des vêtements précieux, etc. Et il va s'approcher du serviteur de ce pays d'Israël pour obtenir la grâce de Dieu, la guérison quant à sa lèpre. Dans la parole de Dieu, on voit que la lèpre, c'est l'image du péché. Et un peu comme Matthieu, cet homme se retrouve dans une situation où il est pécheur. En tout cas, il a besoin du secours de Dieu. Il a besoin de la main de Dieu sur lui. Il a besoin de la grâce de Dieu sur sa vie. Cet homme sûrement souffrait. Quand on a la lèpre, notre corps tombe en putréfaction. Et peut-être il ne souffrait pas physiquement, mais au moins psychologiquement, moralement. Lui qui était un chef d'armée, lui qui avait les honneurs, qui était un homme vaillant, fort, eh bien il se trouve diminué par la maladie. Besoin du secours de l'Éternel. Cet homme allait vers la mort. C'était la suite qu'il attendait, c'était la seule espérance qu'il avait. Voilà qu'une petite fille, une toute petite fille va lui dire une petite phrase, en tout cas à sa femme. « Oh, si mon Seigneur était à Samarie, il connaîtrait tel prophète qui sûrement le guérirait de sa lèpre. » C'est court comme phrase, c'est court comme témoignage. Et simplement, ce soir, j'aimerais dire à chacun, on a besoin du pardon de Jésus. On a besoin du pardon de nos péchés pour rentrer au paradis. C'est tout simple. Le seul pardon qu'on puisse obtenir, qui ait une valeur devant Dieu, pour l'éternité, c'est celui de Jésus. Parce que Jésus est mort à la croix, portant nos péchés, votre péché, mon péché. Et cet homme, ayant besoin du secours de Dieu, va donc partir sur cette parole. Déjà, il fait une bonne chose, il croit cette simple parole. Il va faire les démarches qu'il faut, il va s'avancer. Il va être freiné par plusieurs choses. Plusieurs choses pourraient l'empêcher d'obtenir la bénédiction. La première chose qu'on voit, c'est l'orgueil. Cet homme se met en furie, cet homme s'énerve au moment où il remarque que le prophète lui dit, par l'intermédiaire de son serviteur, va et lave-toi dans les eaux du Jourdain. Premièrement, il le fait remarquer. Je croyais qu'il allait sortir vers moi, qu'il se présenterait lui-même, au moins le respect de venir vers moi, de se présenter. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit qu'il invoquerait le nom de l'Éternel son Dieu sur la place publique, que ça allait être quelque chose d'extraordinaire. Regardez, on reçoit le chef de l'armée de Syrie, oh, il mérite la grâce de Dieu, etc. Cet homme était pris d'orgueil. Je croyais qu'il guérirait le lépreux. Autre chose qui va le vexer dans son orgueil, c'est que les eaux du Jourdain sont boueuses. Si vous alliez voir le Jourdain, vous remarqueriez que ce n'est pas une eau limpide à laquelle on voit au travers. C'est une eau sale. Et ça nous parle de ces gens qui rentraient pour confesser leurs péchés. Hein, le baptême de Jean, qui n'est pas le baptême de Jésus, qui est différent. Le baptême de Jean où les gens venaient demander la repentance, ils venaient se repentir, demander le pardon pour leurs péchés. Et comme si, par cette eau du baptême, eh bien, ils avaient la purification, cette démarche de repentance, leurs péchés étaient lavés. Et tous leurs péchés qui allaient dans ce fleuve, le fleuve du Jourdain, cette eau sale. Et il va commencer à dire, mais l'eau qui est chez moi, là, les fleuves qui sont par chez moi, il en cite deux, ne sont-ils pas bien mieux pour que je sois lavé? Pour qu'il faut que j'aille dans l'eau du fleuve du Jourdain, une eau d'Israël? Il y a des eaux beaucoup plus propres chez moi. Pour un chef, aller dans une eau boueuse, se laver, et en plus 7 fois, ça veut dire que t'es bien sale. Hein. entre guillemets, le petit, sept fois, t'as besoin sept fois toi, désolé, je ne sais pas ce que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour un grand chef d'armée, il a fallu qu'il s'humilie. Dans Isaïe chapitre 2, verset 11, il est dit que celui qui s'élève sera abaissé et que l'orgueilleux sera humilié. Comment nous présentons devant Dieu quand on a une requête à lui demander, que ce soit le pardon de nos péchés ou que ce soit la guérison? On peut demander au Seigneur d'être guéri. On le voit dans la parole. Jésus guérit, Dieu guérit. Comment on arrive vers le Seigneur? Tu vois, moi, mes médailles? Regarde. Hein? Mes médailles. Regarde mes mérites. Tu vois, tout ce que j'ai fait de bien quand même dans ma vie. Tu sais, je lis la Bible tous les jours, moi. Je prie tous les jours. Je récite le Notre Père chaque jour, plusieurs fois dans la journée. Tu vois, moi, j'ai fait du bien. Je distribue la soupe populaire. Je fais ci et je fais ça. Comment on vient devant Dieu? Est-ce qu'on réalise que devant le Seigneur, on ne mérite rien? Tout est grâce, gratuit, un cadeau, un don de Dieu. Parce que nul n'est pur devant Dieu. On a besoin d'être lavé. Cette fois, on a besoin d'un bon lavage. Parce que le péché, ça part pas facilement. Et ce n'est pas nos bonnes actions qui effacent nos péchés. Ensuite, il cite deux fleuves. Deux fleuves. Le premier, c'est l'Abana. Pas l'Alabama, l'Abana. L'Abana. Abana, ça veut dire ses pierres à elle. Ses pierres à elle. Et quand on lit dans Josué chapitre 4, on remarque que dans le fleuve du Jourdain, il y avait des pierres, 12 pierres qui ont été sorties et 12 pierres qui ont été amoncelées pour faire un autel. Et ces pierres, dressées comme un autel, racontaient, était un témoignage que les enfants, lorsqu'ils le verraient, ils allaient demander « Mais c'est quoi ces pierres ?» aux parents. Et les parents avaient la charge de raconter à leurs enfants que ces pierres montrent que c'est à cet endroit que Dieu a ouvert le Jourdain pour qu'ils puissent passer du lieu où ils étaient au pays promis, rentrer dans le pays promis. Et c'était un témoignage. Et là, Bana, il a un peu ses pierres à elle. Et ça nous parle un peu Naaman qui disait, moi je veux bien rentrer dans le pays promis, moi je veux aller au paradis, mais avec mes pierres à moi, avec mon histoire à moi, avec mes efforts à moi, avec ma religion à moi. Et c'est pas comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est pas comme ça qu'on est au bénéfice de la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit comment être sauvé. La parole de Dieu nous dit comment être au bénéfice de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est par le sang de Jésus qui a coulé à la croix et c'est tout. Pas d'autre solution. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. Il n'y a que Jésus qui est monté sur le bois de la croix pour porter nos péchés et supporter la colère de Dieu que nous méritions à cause de nos péchés. Le péché c'est grave, ça nous empêche d'entrer au ciel parce que Dieu est pur, Dieu est saint. Rien de souillé, nous dit l'Apocalypse, ne rentrera dans le royaume de Dieu. Il faut être lavé. Et le seul qui a porté nos péchés, qui a coulé son sang, qui a donné sa vie gratuitement par amour pour nous, et qui était pur pour que son sacrifice ait une valeur, c'est le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que Jésus, c'est le seul nom qui nous était donné par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et il n'y a pas d'autre témoignage. Il n'y a pas d'autre récit, il n'y a pas d'autre histoire, il n'y a pas d'autre philosophie qui peuvent nous ouvrir les portes du pays promis, les portes du ciel. Ça, c'est une chose aussi qui aurait pu l'empêcher. Abana, mes pierres à moi. Parpar, le deuxième fleuve dont il parle. Parpar, ça veut dire rapide. Rapide. Et quelquefois, nous, on croit que le salut avec Dieu, c'est rapide. Une petite prière de temps en temps, ça suffit. Faire ma béa, ça suffit, c'est rapide. Hein? Un petit peu de temps, je vais brûler mon cierge quelquefois, puis ça va aller. Hein? On croit que l'obtention du pardon du péché, eh bien, ça s'est fait rapidement. Pas besoin d'effort, c'est tout seul. Dieu est amour, on ira tous au paradis, comme le dit, pas un cantique, mais ce chant erroné. On croit que c'est comme ça, pas d'effort, rien. J'aimerais vous dire que Jésus a dû vivre sur cette terre 33 ans et demi pour expier nos péchés. Que pendant 3 ans et demi, on a cherché à le tuer. Que pendant 3 ans et demi, il a dû lutter contre le péché. Pendant 33 ans et demi plutôt, il a dû résister au péché et aux différentes tentations que le diable mettait devant lui. Parce qu'il devait être pur pour expier nos péchés. Il devait, lui, ne rien avoir à se reprocher, sinon il serait mort pour lui-même, c'est tout. Mais pour pouvoir mourir pour toi et pour moi, il fallait qu'il se tienne pur. Et on sait combien c'est dur de ne pas pécher, on sait combien c'est dur de ne pas mentir, on sait que naturellement, de ne pas s'énerver, de ne pas avoir d'amertume, c'est compliqué. Jésus a dû résister à toutes ces choses, lui qu'on a battu, lui sur qui on a craché. Lui qui a subi les couronnes, la couronne d'épines, les coups de fouet, lui qui a subi les clous par amour pour toi, pour moi. Il n'a pas à dire, allez, rapidement, ça sera fait, c'est comme ça, c'est facile. Non, ça a pris du temps. Il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est dans la souffrance que Jésus a expié nos péchés. La croix, ce n'a pas été une minute. Il n'a pas été tué par balle, le Seigneur Jésus. Il a souffert l'agonie de la croix pour nous. Et quelquefois, on voudrait que l'affaire de nos péchés se soit vite passée. Pensez à nos péchés, à la dette de nos péchés, où ça va vite un petit moment, mais ça va vite aller. Peut-être que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre relation avec Dieu, avec Jésus, se tient à quelques secondes, quelques minutes par jour, une petite pensée par-ci, par-là. J'aimerais vous dire que la grâce de Dieu, qui n'est pas que pour un moment, mais qui doit durer toute notre vie, elle doit se conserver par des efforts. La Bible dit « Faites tous vos efforts pour », etc., etc. Il y a un effort à fournir. Il y a une communion à entretenir avec le Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour que connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Ça ne se fait pas rapidement comme ça. Aujourd'hui, on est les pros de la zapette. On zappe. Il faut que ça aille vite. Micro-ondes. Tac, tac, tac. Génération micro-ondes. On veut manger, tac, 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 le repas, tac, 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 une minute, poum, 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 poum. Et encore, on est là devant le micro-ondes et on râle, c'est pas vrai? Alors qu'avant, il fallait partir à la chasse avec notre arc, et puis chasser le gibier, le ramener, des fois, il n'y avait rien. Traire la vache, le matin quand il faisait froid, aller chercher l'eau au puits, faire cuire son pain. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe, on sort du congé, tac, 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 ça va vite. On fait même nos courses par Internet, si vous faites comme moi. Eh oui. On veut au plus vite, au plus vite, au plus vite. Mais avec le Seigneur, il faut prendre du temps avec lui. Prendre du temps pour réaliser sa mort à la croix par amour pour nous. La quatrième chose qui aurait pu empêcher Naaman de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est son incrédulité. On voit que tout fâché, à cause de son orgueil, il est aveuglé complètement. Il dit, de toute façon, il y avait d'autres eaux. Pourquoi j'ai pris la peine de venir là? De toute façon, il ne m'accueille même pas. J'ai même pas un bon accueil, ça ne sert à rien. Et il s'en va tout fâché. Et voilà que quelques serviteurs ont l'intelligence de lui dire, mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais pas fait? Toi qui aimes bien relever les défis, toi qui aimes bien montrer combien tu es débrouillard fort par tes propres forces. Alors pourquoi tu te compliques la vie comme ça? Fais ce qu'il t'a dit, va, lave-toi et tu seras pur. Et là, Naaman a réfléchi. Combien de temps ça a duré? Une seconde? 10 minutes? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il est revenu sur sa position. Il a eu l'intelligence de revenir sur sa position. Ayons l'intelligence de ne pas rester sur nos a priori. Moi, j'ai ma religion, c'est comme ça, c'est celle de mes parents, c'est comme ça. Ayons l'intelligence de dire, mais après tout, je vais vérifier dans la Bible si ce qu'on m'a dit est vrai. Je vais vérifier si ce que Jérémie, là, ce soir, il a dit, c'est vrai, en rentrant ce soir. Reprendre les textes, prendre d'autres, et dire, Seigneur, montre-moi, Dieu, si tu existes, Jésus, si tu es vraiment mort pour moi, et si tu es ressuscité, vivant pour me toucher, pour me sauver, et pour me guérir, si c'est vrai ce qu'il a été dit, eh bien, montre-moi, par la parole, par la Bible, si c'est vraiment ce que tu dis et ce que tu veux pour moi. Et alors, je changerai de position. À apprendre à se remettre en question. Il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible, qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors nous, on n'est pas dans ce cas-là, mais je crois qu'il faut accepter quelquefois de se remettre en question. Pas avoir peur, dire après tout, je suis prêt à remettre mes convictions sur la table, face à la parole de Dieu, pas les philosophies du monde, mais ce que Dieu dit, la Bible, qui est la vérité. Amen. Jésus dira, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La Bible, c'est la vérité, elle est inspirée de Dieu. Amen. L'incrédulité qui peut nous bloquer la route. Ne soyons pas incrédules, croyons simplement avec un cœur d'enfant. Et au verset 17, j'aimerais lire quelque chose avec vous. On voit avant qu'il y a aussi autre chose. verset 15. Pour remercier Dieu, vous avez vu ce qu'il voulait faire. Hein? Il voulait offrir un présent au prophète, dire voilà, tu vois, je suis venu avec. Qu'est-ce qu'il est venu ? Tiens. Il partit prenant avec lui, verset 5, 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il va payer un petit peu la grâce qu'il a obtenue. Tiens, j'ai été guéri, maintenant je vais quand même donner de l'argent, je vais rembourser ma dette en donnant de l'argent. Et il croit qu'on peut acheter la bénédiction de Dieu. Je crois que le prophète a eu la bonne attitude. Jésus ne veut pas de notre argent. Dieu ne veut pas de notre argent, vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça lui appartient. C'est déjà à lui. Pas besoin. C'est déjà à lui. Eh ouais. Il est dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui a tout créé. Le soleil. Tiens, Seigneur. Ouais. Le soleil, c'est lui qui l'a fait. Tout, il a tout fait. Il nous a même créés, nous les hommes. Et comme il nous laisse gérer l'argent qu'on gagne, entre guillemets, par notre travail, qui vient aussi de lui, j'en suis certain, il laisse une certaine permission, il nous laisse gérer une certaine somme d'argent qui lui appartient quand même, et dit, allez, je vous laisse en jouir pour un temps, je veux voir comment vous l'utilisez. Parce que Dieu nous laisse aussi une certaine responsabilité. De la même manière, je crois que Dieu nous donne à tous la vie. Il a donné à chacun le pouvoir de procréer, à moins qu'il y ait maladie, mais encore là, Dieu peut guérir. Et il nous laisse responsables de la manière dont on utilise ce pouvoir de procréer, cette capacité, cette faculté de procréer. Il nous laisse aussi la charge de gérer la vie qu'il nous a donnée, puisque c'est lui qui fait battre le cœur de l'enfant dans le ventre de la maman. Et il dit, voilà, comment tu vas gérer ta vie ? Dieu nous laisse un choix, le choix de notre vie, la manière dont on va vivre. Comment est-ce qu'on va apprendre à gérer ? Lui croit qu'il peut payer tout ça, qu'il peut acheter ces choses. Il n'en veut pas, tout lui appartient. Ce qu'il veut par-dessus tout, par contre, quand même, c'est notre cœur tout entier. Tout entier. Et moi, j'aime bien la manière dont Naaman réagit. Quand le prophète lui dit « Non, je ne veux rien de tout ça », il insiste, le prophète. Alors, Naaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus, et là il parle de lui, ton serviteur, je ne veux plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Je n'en offrirai qu'à l'Éternel. » Voilà ce qui a changé dans son cœur et ce qui est bon de changer dans notre cœur. C'est de n'avoir pour Dieu que le Seigneur Jésus, que le Dieu créateur de la parole de Dieu, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la bonne attitude qu'a quand même Naaman. Il ne veut plus du tout d'autres idoles dans sa vie, d'autres dieux. Il n'aura qu'un seul Dieu. Et nous devons dire, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Maintenant, voilà le choix. Voilà ce que je te donne, tout. Toute ma vie. Je te donne tout. Tout est à toi. Et si tu me donnes de la gérer pendant un temps comme je veux, eh bien, je vais apprendre à la gérer comme tu me dis de le faire, comme tu me conseilles de le faire dans ta parole. Ta parole, la Bible, nous dévoile la volonté de Dieu. Vous le savez, ça ? Quoi faire de ma vie ? Pourquoi je suis là sur la terre ? Lisez la Bible, vous allez savoir ce que Dieu veut de vous et ce pourquoi il vous a donné la vie. Et vous allez rentrer dans ses plans, et quand on est dans ses plans, on est épanoui et heureux. Moi, je ne peux pas concevoir que Dieu ait prévu une vie pour nous où on ne soit pas épanoui, non pas parce que tout va bien autour, on aura les mêmes épreuves que la plupart des gens, peut-être plus des fois, mais en tout cas, une chose est sûre, il sera avec nous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a pu l'empêcher ? L'orgueil ? Est-ce que l'orgueil... Eh bien, nous empêche de nous approcher de Dieu. Non, moi, j'ai besoin de personne. Est-ce que c'est parce que vous croyez à votre religion à vous ? Vous voulez boire ou vous lavez dans... Vous croyez que vos péchés seront effacés par votre religion, dans le fleuve d'Abana ? Est-ce que vous pensez que non, de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, c'est vite fait. Moi, je m'expliquerai avec Dieu une fois là-haut, pas besoin de prendre du temps ici-bas. Est-ce que votre frein, c'est l'incrédulité ? Moi, je ne crois que ce que je vois. À jouer à ce jeu-là, le jour où vous verrez Dieu, ça sera trop tard. Est-ce que vous voulez acheter la bénédiction ? On est exaucé. Voilà Mélissa. Amen. Bon. Est-ce que nous, on veut acheter la bénédiction ? Est-ce qu'on veut acheter des choses du Seigneur ou est-ce qu'on compte sur sa grâce ? Est-ce qu'on fait confiance sur le Seigneur, au Seigneur, pour diriger nos vies, pour pouvoir à tous nos besoins? Et quand il nous sauve, quand il nous bénit, quand il nous guérit, la seule chose à faire, c'est dire: Seigneur, après tout, c'est vrai, je veux dépendre de toi, parce que quand on dépend de toi, on est en paix, on sait que tu peux pouvoir à tous nos besoins, tu es tout puissant, tu es riche, tout appartient. Seigneur, je veux être ton enfant. Pardon pour mes péchés. Pardon, Seigneur, pour mes offenses. À cause de moi, tu es mort sur le bois de la croix. À cause de moi, tu as souffert. Tu n'as pas pris un peu de temps pour me sauver, tu as pris toute une vie. Seigneur, pardon. Je veux être reconnaissant, je veux te dire merci. Je te dis merci, mais aussi, je veux te donner toute ma vie pour suivre ton chemin, pour marcher dans tes voies, dans ta volonté. Est-ce que c'est le désir de nos cœurs, nous qui découvrons, nous qui connaissons? Est-ce que nous voulons vraiment marcher dans les voies de Dieu et ne pas tomber dans les pièges que Naaman a failli se trouver pour toujours? Il a failli passer à côté de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Voilà, est-ce qu'on a à cœur vraiment de découvrir le Seigneur plus et d'être au bénéfice de son salut et de ses grâces? Qu'il en soit ainsi en tout cas pour chacun d'entre nous. Amen. Merci Seigneur de nous enseigner à avoir la foi d'un enfant, la confiance d'un enfant, le cœur d'un enfant face à ta parole, face à ton enseignement. Tu veux nous sauver d'une manière toute simple, par la foi. Tu dis: nous sommes sauvés par grâce, par la foi, par le moyen de la foi, la confiance en toi, croire en toi, croire en ta parole. Et nous ne voulons pas être compliqués dans notre tête. Combien de fois j'ai été compliqué, combien de fois nous sommes compliqués. Pardonne-nous de lutter avec toi, de te résister. Tu nous dis quelquefois d'abandonner un péché, d'abandonner une idole, et nous mettons du temps parce que nous discutons avec toi. Pardonne-nous, Seigneur, donne-nous de la force. Donne-nous du courage, renouvelle notre foi pour vaincre le péché, pour vaincre le monde et faire partie de tes enfants, de tes bénis. Amen, Seigneur Jésus, amen. Quelqu'un peut-être ce soir est dans la maladie. Quelqu'un peut-être ce soir a besoin de faire la paix avec Dieu à cause de ses péchés. Eh bien, nous allons chanter un dernier chant. Et pendant ce chant, si quelqu'un veut s'approcher devant et demander la grâce de Dieu, comptant pas sur ses mérites, mais comptant sur son amour, sur sa miséricorde, alors qu'il s'approche, on priera ensemble. Et de la même manière que Dieu vient de nous exaucer, que Dieu a exaucé Naaman, que Dieu a béni Lévi, Matthieu, dans toute sa maison et autour de lui, il va le faire pour nous, j'en suis certain. Amen.